et le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Des journalistes d'investigation pensent avoir résolu le mystère du syndrome de la Havane. Les maux dont ont souffert bon nombre de diplomates depuis 2016 seraient imputables aux renseignements militaires russes. Éric Biegala nous en dira plus dans un instant. Les députés israéliens adoptent une loi visant à interdire la chaîne qatari Al Jazeera. Par ailleurs, la police israélienne a arrêté la sœur du chef du Hamas dans le cadre d'une enquête pour terrorisme. Un rapport parlementaire réclame un encadrement plus strict de l'école privée, davantage de contrôle et des sanctions en cas de manquement. Explication de notre spécialiste éducation Hakim Kasmi. Et puis nous parlerons alimentation dans la chronique Demain l'écho. Comment limiter les ajouts chimiques dans les aliments transformés? Réponse avec Annabelle Grelier. Migraines, nausées, troubles de la vision. Depuis 2016, des diplomates occidentaux ont souffert de ces symptômes sans qu'il soit possible d'en expliquer l'origine. Les premiers concernés étant en poste à Cuba, on s'est mis à parler du syndrome de la Havane. Syndrome dont le mystère pourrait avoir été percé. Bonsoir Éric Biegala.
Bonsoir Aurélie.
Des journalistes de plusieurs médias, le journal russe indépendant The Insider, le magazine allemand Der Spiegel et la chaîne américaine CBS ont mené l'enquête.
Oui, une bonne centaine de diplomates et surtout d'agents de renseignement américains ont été victimes de ce syndrome dit de la Havane, mais qui a été constaté ailleurs, à Francfort en Allemagne, à Hangzhou en Chine, à Tbilissi en Géorgie, etc., etc., avec à chaque fois les mêmes symptômes, maux de tête fulgurants, perte d'équilibre, vomissements, acouphènes hyper violents et qui durent, au point que nombre d'entre ces agents ont dû être arrêtés, hospitalisés, certains mis en retraite anticipée. L'an passé, un rapport de l'Office du directeur du renseignement américain estimait comme, je cite, « très improbable qu'une puissance étrangère ou qu'une arme soit à l'origine du mal mystérieux ». L'enquête de The Insider, Der Spiegel et 60 Minutes tente à démontrer exactement le contraire. En fait, à chaque occurrence d'une telle attaque, les journalistes ont identifié des agents du GRU russe dans les parages et plus précisément de l'unité 2955, celle qui est en charge des assassinats, des sabotages et autres attentats en pays étranger. Exemple, en 2020, une infirmière, épouse d'un agent du département de la justice américaine en poste à Tbilissi en Géorgie, est victime d'une telle attaque. Elle quitte immédiatement la buanderie où elle se trouvait et descend dans la rue pour y surprendre un jeune homme, grand, maigre, tout blond, qui stationnait juste en face. Elle le reconnaît immédiatement sur une photo que lui montrent les journalistes 3 ans plus tard. Il s'agit tout simplement d'Albert Averianov, le fils du général Averianov, fondateur de l'unité 2955. Albert Averianov était effectivement là, à Tbilissi, à cette époque. Alors comment peut-on le savoir? Tout bêtement, en suivant leurs embarquements sur les vols ou les trains ou chez les loueurs de voitures qu'ils utilisent. Depuis 2018, date de leur première enquête autour des empoisonneurs de l'agent double Sergei Skripal à Salisbury, en Grande-Bretagne, les enquêteurs Christo Grozev et Roman Dobrokotov de The Insider ont mis la main sur une collection de vrais faux passeports russes affiliés aux agents du GRU. Facile à repérer d'ailleurs, ils portent tous le même numéro à une unité près. Suivre le périple de ces vrais faux passeports sur les lignes aériennes russes ou occidentales est ensuite très simple et à chaque fois ça colle. À chaque attaque, on trouve entre deux et quatre agents de l'unité 2955 présents la veille ou le jour même et au même endroit.
Éric Biegala. Israël a mené des frappes en Syrie sur une annexe de l'ambassade iranienne à Damas. Le bâtiment a été rasé. Il y aurait 8 morts et selon un média iranien, un responsable des gardiens de la révolution aurait été tué. Les forces israéliennes ont achevé leur opération dans le secteur de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand hôpital de la bande de Gaza avant la guerre. L'opération aura duré 2 semaines. L'armée affirme avoir tué des centaines d'hommes armés, saisi des armes et des documents de renseignement. Le Hamas et le personnel médical réfutent toute présence armée. Mais dans les hôpitaux, le bureau des médias de Gaza, contrôlé par le Hamas, accuse Israël de crimes contre l'humanité. Par ailleurs, une sœur du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a été arrêtée ce matin par les forces de sécurité israéliennes dans une localité du sud de l'État hébreu où elle réside. Et cette arrestation fait beaucoup de bruit en Israël, Omar Waman.
C'est dans le cadre d'une enquête pour terrorisme que Sabah Abdel Salam Haniyeh a été arrêtée ce matin. La sœur cadette du chef du bureau politique du Hamas, qui possède la nationalité israélienne, est soupçonnée d'infraction à la sécurité, de liens avec des membres du groupe islamiste et d'incitation au terrorisme. Lors d'un raid de la police baptisé Levée de soleil précoce et qui a mobilisé d'importants moyens, unité spéciale et police des frontières, des documents compromettants ont été découverts, notamment dans des téléphones qui prouvent que la sœur du chef du Hamas est bien liée à des actes qui menacent la sécurité de l'État hébreu. Cette arrestation devrait relancer le débat sur la présence en Israël de membres de la famille du chef du Hamas, dont 3 sœurs sont mariées à des bédouins israéliens. Selon le Jérusalem Post, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a appelé à plusieurs reprises à leur expulsion d'Israël, des appels qui devraient trouver de nombreux soutiens après bientôt 6 mois de guerre contre le Hamas.
À la demande de Benjamin Netanyahou, les députés israéliens viennent de voter une loi permettant au Premier ministre d'interdire la diffusion en Israël de médias étrangers portant atteinte à la sécurité de l'État. Ce texte vise tout particulièrement la chaîne qatari Al Jazeera, qui pourrait être amenée à fermer ses bureaux en Israël. Au pouvoir depuis 21 ans en Turquie, le président Erdogan a encaissé hier une défaite inédite. Il s'était personnellement engagé dans la campagne des élections municipales. Or, le CHP, le principal parti d'opposition, l'emporte à nouveau très largement dans les deux plus grandes villes de Turquie, Istanbul et Ankara. Le CHP a aussi fait une percée spectaculaire en Anatolie, tandis que le Yeniden Refa, une formation islamiste, s'est imposée comme la troisième force politique. Notre correspondante en Turquie, Marie-Pierre Véraud, s'est rendue dans un quartier d'Istanbul longtemps qui a l'AKP, le parti du président.
Nous sommes à Beyoğlu, sur la rive européenne du Bosphore, quartier très touristique, sa place Taksim, sa tour de Galata. Yuenten est assise à une terrasse de café et cette psychothérapeute arbore un large sourire.
Aujourd'hui, je me suis réveillée dans une sorte de sérénité. Pourquoi ? Parce que j'ai l'espoir que d'autres choses vont suivre, qu'il y aura un changement. Un changement dans la société turque qui est tellement polarisée. J'espère maintenant que cette sorte de guerre entre nous a pris fin.
Le maire, İmam Olu, a d'ailleurs lancé un appel à la réconciliation de tous en Turquie hier soir. Kurdes et Alevis, sunnites et arméniens. Un peu plus haut sur la place Taksim, Dündü tire son kaba et fait la grimace sous son voile. Elle avoue avoir voté pour le parti du président, mais s'en repent, critiquant Recep Tayyip Erdogan sans le nommer.
J'ai 71 ans, j'en ai vu de toutes les couleurs. Mais une vie si chère, je n'ai jamais vu cela avant cette année. Il a laissé flamber les prix. Tu vas au magasin aujourd'hui, ça coûte 3 livres. Et demain, 5 livres. Il nous a trompés. Le Dieu voit tout cela. Et c'est fini maintenant. Sa vie politique est finie. Bye bye.
La fin de la vie politique du président ? Pas sûr, mais la colère est palpable dans les rangs de nombre de ses électeurs. Derrière sa machine à coudre, Yüksel, un tailleur du quartier, savoure, lui, sa revanche.
Il disait que 2024 serait l'année des retraités. C'est vrai, les retraités lui ont donné une bonne leçon.
Une raclée même, ajoute-t-il en éclatant de rire.
Marie-Pierre Véraud à Istanbul. De plus en plus de migrants tentent la dangereuse traversée de la Manche. Au premier trimestre, près de 5 400 personnes ont effectué cette traversée à bord de petites embarcations. C'est quasiment 42% de plus que sur la même période l'an dernier. Nous nous intéressons à présent à une loi qui entre en vigueur en Écosse et qui pourrait valoir des ennuis à l'autrice de Harry Potter, résidente écossaise. Cette loi aggrave les peines contre les auteurs de discrimination et selon une ministre écossaise, elle pourrait s'appliquer à l'écrivaine J.K. Rowling qui, depuis des années, s'oppose avec virulence à des militants transgenres, notamment sur Internet. Bonsoir Richard Place.
Bonsoir.
Correspondant de France Culture au Royaume-Uni, vous voyez aujourd'hui ce conflit s'enflammer à nouveau.
Oui, J.K. Rowling écrit sur les réseaux sociaux « Arrêtez-moi », elle met les autorités au défi. Auparavant, elle avait publié des photos de personnalités trans connues, en particulier des criminels. Elle se moque du fait qu'elles affirment être des femmes. La liberté d'expression prend fin en Écosse, écrit la romancière énervée, si la description précise du sexe biologique est considérée comme criminelle. Particulièrement agacée par la déclaration d'une ministre, Siobhan Brown, ce matin sur la BBC, questionnée sur d'anciennes prises de position de J.K. Rowling à la lumière de cette nouvelle loi.
Ça pourrait être signalé et il pourrait y avoir une enquête. Déterminer si c'est un crime, c'est à la police de le faire.
La police écossaise qui s'attend à un flot de plaintes alors qu'aucun moyen supplémentaire ne lui a été accordé. Depuis bientôt 4 ans, J.K. Rowling est en guerre ouverte avec des militants transgenres. Elle avait écrit sur son site à l'époque « Lorsque vous ouvrez les portes des toilettes et des vestiaires à tout homme qui se croit ou se sent femme, vous ouvrez la porte à tous les hommes qui souhaitent entrer. » Le début d'une confrontation sans fin sur les réseaux sociaux jusqu'à des insultes, des menaces jugées crédibles par la police. Son adresse personnelle a même été publiée en ligne. J.K. Rowling n'est désormais plus conviée aux événements en lien avec l'adaptation cinématographique de son œuvre. Les principaux acteurs ont depuis longtemps déjà sévèrement critiqué ses prises de position.
Merci Richard Place, vous étiez en direct de Londres. Après le rejet par le Sénat du CETA, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, l'exécutif avait décidé de suspendre la navette parlementaire qui devait permettre au texte du projet de loi d'être voté à l'Assemblée nationale. Mais au Palais Bourbon, le groupe communiste prépare une proposition de résolution sur le sujet qu'il compte présenter dans le cadre de leur niche parlementaire, Sophie Delpont.
C'est le député communiste Sébastien Jumel qui interpelle dans l'hémicycle le ministre en charge de l'Europe, alors que le Sénat a rejeté le projet de ratification du CETA.
Sachez que si vous persistez à vouloir nous embrouiller, notre groupe inscrira le 30 mai prochain dans notre niche parlementaire une proposition pour vous contraindre à poursuivre le processus démocratique sur le CETA.
Depuis, son groupe parlementaire avance sur la rédaction d'une proposition de résolution, selon Sébastien Jumel.
On transforme donc ce texte en proposition de résolution, c'est-à-dire un vote de l'Assemblée qui contraint le gouvernement à soumettre la ratification du CETA au vote du Parlement. C'est le sens de cette proposition de résolution.
Jean-Philippe Derosier est professeur de droit public à l'Université de Lille, titulaire de la chaire d'études parlementaires. Il précise que cette proposition ne pourra pas contraindre le gouvernement à déclencher un vote.
Cette résolution ne serait possible qu'à la condition que cela se cantonne à une prise de position parlementaire sans que cela se traduise par une obligation pour le gouvernement, car l'article 34-1 de la Constitution l'interdit. Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité et qu'elles contiennent des injonctions à son égard.
Si cette résolution était adoptée, le gouvernement pourrait alors à nouveau décider ensuite de ne pas demander de vote à l'Assemblée, ne pas prendre de risque politique à seulement 10 jours des élections européennes.
Sophie Delpont. Un rapport parlementaire sur l'école privée doit être rendu public demain. Opposés politiquement, les députés Horizon, Christopher Weisberg et Paul Vanier de la France Insoumise s'accordent pour fustiger le fonctionnement et le financement de l'enseignement catholique. D'une seule voix, ils exigent davantage de contrôle de ces quelques 7500 établissements qui accueillent 2 millions d'élèves et ils envisagent des sanctions en cas de manquement, rappelant que les établissements privés sont financés jusqu'à 97% par l'État via les collectivités, Hakim Kasmi.
Si les enseignants qui travaillent dans les écoles privées sous contrat sont régulièrement inspectés par le ministère de l'Éducation nationale, en revanche, leur mode de fonctionnement est beaucoup plus opaque, estiment les rapporteurs. Des propos que dénonce Philippe Delorme, le secrétaire général de l'enseignement catholique, qui parle, je cite, d'un rapport idéologique. Pour autant, ce dernier se dit prêt à plus de contrôle au micro de Sonia Princey.
Non, le financement n'est pas opaque du tout et est tout à fait transparent et on ne cache pas des donateurs milliardaires qui nous financeraient d'une façon occulte, loin de là. Donc on demande que ça, d'être contrôlé et on verra la réalité des prix. On verra que les forfaits sont bien souvent insuffisants pour garantir la gratuité de l'externat comme le prévoit la loi Debré, qui devrait permettre aux familles d'obtenir la gratuité sur la partie externat. Le reste à charge pour les familles concernant l'immobilier et bien sûr tous les frais annexes du type restauration scolaire ou garderie.
Les rapporteurs préconisent également plus de mixité sociale dans les écoles privées, avec même la mise en place de malus pour ceux qui ne joueraient pas le jeu de la mixité sociale. Il faut dire que ces dernières années, le nombre d'élèves issus de familles favorisées est passé de 20 à 40%. Pour rappel, Pape Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation, avait tenté d'instaurer des quotas dans les écoles privées avec plus de mixité sociale. Finalement, ce dernier avait cédé face aux pressions. Pour autant, le secrétaire général de l'enseignement catholique se dit prêt à faire plus d'efforts concernant la mixité sociale dans un audit qu'il publiera, mais pas avant janvier 2025.
Les MJC, les maisons de la culture et de la jeunesse, vont devenir éligibles au Pass Culture. Le dispositif qui a vu le jour en 2021 permet d'une part aux professeurs de financer des activités culturelles et puis d'autre part, les jeunes de 15 à 18 ans peuvent obtenir des places de cinéma, de théâtre, des livres ou des abonnements à des magazines. Jusqu'à maintenant, 3,5 millions de jeunes ont bénéficié du Pass Culture, mais pas dans les MJC qui proposent pourtant des ateliers et des stages autour de la culture. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous.
La ministre de la Culture, Rachida Dati, veut davantage démocratiser l'accès à la culture alors que 20% des jeunes qui ont droit à ce pass ne l'utilisent pas.
Et oui, pour Rachida Dati, le pass culture ne remplit pas pleinement ses fonctions alors que ce dispositif coûte 250 millions d'euros par an. Sur Skyrock, elle explique que les jeunes qui passent par l'application pour acheter une place de concert ou pour l'opéra, ce sont des jeunes qui connaissent déjà ces pratiques culturelles. La locataire de la rue de Valois a émis cette même réserve devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale il y a 2 semaines, ce qui est une première de la part d'une ministre de la Culture, qui plus est en exercice. Pour Rachida Dati, le pass culture est un outil de reproduction sociale. Il crée, dit-elle, de la discrimination dans la discrimination.
Pour certains, aller à l'opéra, aller au théâtre, peut-être que certains, ça peut les choquer, mais ils ne sont pas préparés. Aller dans une salle de théâtre, c'est parfois, ça demande une explication, une anticipation, une appréhension. Ce que je veux faire avec les acteurs de l'éducation populaire, c'est favoriser cette médiation, mais aussi que eux puissent bénéficier de ces fonds du Pass Culture, parce qu'ils ont aussi des actions culturelles qui permettent d'ouvrir, d'émanciper.
Les MJC sont des acteurs culturels à part entière. La ministre l'a affirmé dès le jour de sa nomination. Selon elle, ce sont des réseaux extrêmement importants dans des endroits où il n'y a plus de culture, dans certains quartiers, mais aussi en zone rurale où se trouve la moitié des 1000 MJC françaises.
Et des rencontres autour des pratiques culturelles des MJC débutent demain à Sochaux. 18h16, nous retrouvons Annabelle Grelier pour la chronique Demain l'écho. La demande de transparence en matière d'alimentation n'a jamais été aussi forte. Les consommateurs peuvent aujourd'hui s'appuyer sur l'indicateur Nutri-Score qui juge la qualité nutritive des aliments. Bientôt, l'info Origine précisera dans quel pays la matière première a été produite. Il y a aussi l'application Yuka. Tout cela pousse le secteur agroalimentaire à évoluer. Et vous vous êtes intéressée, Annabelle, à une jeune pousse installée à Cergy, en région parisienne. Elle a mis au point une technique de déshydratation pour limiter les ajouts chimiques dans les aliments transformés.
Additifs, colorants, exhausteurs de goût, conservateurs, les produits alimentaires ultra transformés contiennent de nombreux éléments chimiques. Véritable enjeu de santé publique, les associations de défense des consommateurs ne cessent d'alerter sur les ingrédients et certains procédés de l'industrie agroalimentaire. Pour limiter la chimie dans les recettes, la jeune entreprise Drive for Good a mis au point une technologie de séchage de précision des fruits et légumes qui permet de préserver plus de 90% des nutriments, nous explique l'un des 2 cofondateurs, Romaric Janssen.
Nous, on innove sur la façon qu'on a d'extraire l'eau, la vapeur. On arrive à mettre des systèmes de filtres qui nous permettent d'extraire que les molécules d'eau et de garder tout le reste dans le produit. C'est fait à base notamment d'algorithmes, de capteurs et justement de synchronisation de notre cycle de production pour réussir à mettre le produit dans des conditions parfaites. Après, dans la façon de le faire, on passe par tout ce qui est algorithme, calcul, données.
Qu'est-ce qu'on cherche à calculer ?
Toute la façon qu'a l'eau de sortir du produit. La vitesse à laquelle elle sort, sa sensibilité, comment est-ce que le produit se dégrade au cours de temps si jamais il se dégrade, voilà, comment il perd son poids, comment il chauffe. Et en fait, tout ça, toute cette analyse nous permet de savoir si le produit s'abîme ou pas. Et on maîtrise, et jusqu'au moment où on voit qu'il va commencer à s'abîmer, c'est là qu'il faut que c'est fini de sécher.
Une fois déshydratés, les fruits et légumes sont réduits en poudre, en paillettes ou en cubes, selon les recettes des industriels de l'agroalimentaire.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces fruits qui sont passés dans votre chaîne de séchage, avec ceux qu'on trouve à l'heure actuelle dans l'agroalimentaire classique ?
Ils ont plus de goût, plus de couleurs, et surtout à la réhydratation, on va retrouver une texture proche du produit frais. Après, au niveau de l'agroalimentaire et des recettes, on est là pour accompagner l'industriel. S'il a une bonne matière première, qui résiste bien au process industriel après, eh ben on va réussir à limiter l'usage de trop d'ingrédients, que ce soit des colorants, des texturants, des arômes, tout ce qui est produits issus de ce qu'on appelle du cracking, tout ce qui est isolat de molécules.
La déshydratation concentre les goûts, la couleur, sans sucre, ni sel ajouté, sans colorant, ni conservateur. Drive for Good se veut une alternative naturelle aux additifs.
Quand on se retrouve avec un produit fini qui a 15 ingrédients différents pour faire une soupe, bah faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de tout ça. Donc encore une fois, l'idée c'est de limiter le nombre d'ingrédients utilisés dans les applications industrielles du quotidien.
Comme les agents de saveur, comme les colorants, comme les émulsifiants, comme les apaisissants.
Ouais, tout à fait, c'est vraiment ça. Les ingrédients que vous avez cités, c'est effectivement des propriétés fonctionnelles mécaniques. On va chercher à corriger des choses qui font défaut dans la recette initiale. Un industriel, par exemple, dans la boulangerie qui aujourd'hui met des produits surgelés dans des muffins, eh ben, il a un problème, c'est que la couleur du fruit surgelé qu'il a mis va se diffuser dans le muffin, c'est pas joli. Il va se retrouver avec de l'eau dans son muffin, donc ça va demander une température de cuisson plus élevée, un risque microbien. Donc il va corriger ça avec effectivement des agents comme il peut. Il va venir stabiliser avec peut-être du sucre, peut-être de la fécule, de l'amidon, ce genre de choses asséchantes. C'est un peu dommage parce que si au lieu de mettre un produit surgelé, il avait mis un produit séché qui résiste à la cuisson, eh ben il aurait eu un produit magnifique avec beaucoup plus de goût puisque concentré, et en utilisant moins d'ingrédients.
Pour son approvisionnement en matières premières, la jeune entreprise favorise les producteurs locaux. Elle valorise également les produits déclassés et surtout répond à la problématique de saisonnalité des fruits et légumes. En période de surplus, la déshydratation est en effet une bonne méthode de conservation. Après 4 ans de recherche et développement et une chaîne pilote, Drive for Good passe ce mois d'avril à la phase d'industrialisation visant la transformation de 200 tonnes de fruits et légumes par an.
Annabelle Grelier, la chronique de Demain l'écho est disponible sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture. Météo France a placé 2 nouveaux départements en vigilance rouge crue, la Côte d'Or et Lyon. En revanche, l'alerte a été levée pour l'Indre-et-Loire. Demain, il fera souvent gris et une nouvelle perturbation pluvieuse arrivera sur le nord-ouest. Le soleil dominera sur les régions méditerranéennes. Au petit matin, les températures seront comprises entre 2 et 11 degrés. L'après-midi, il fera 12 à 16 au nord, 15 à 20 au sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.